Bonjour tout le monde. Bon, ça va être un peu rock'n'roll, ça va être bien. La conférence de ce matin parle donc des rapports entre science-fiction et SF et comment est-ce que les deux ont communiqué, se sont enrichis mutuellement ou quelquefois se sont bagarrés, parce que après tout c'est drôle. Et j'ai la chance d'avoir deux personnes avec moi qui savent de quoi elles parlent. Donc la première c'est Florence Corcel, ici, que vous connaissez certainement via ses blogs numériques, via ses conférences, etc., etc., et qui est en particulier une grande spécialiste de l'exploration du système solaire, et qui a failli partir sur Mars, si je bien comprends.
Oui, on failli de loin, quand même.
Tu fais partie des 100 sélectionnés,
non ? Non, je ne fais pas partie des 100.
Tu fais partie des 500.
Oui, 675.
D'accord. C'est quand même pas mal. Et donc, tu vas nous aider pour ça. Et puis, à côté, Tom Clay, qui est aussi... un spécialiste de la science-fiction anglo-saxonne et qui est en particulier un spécialiste d'Arthur C. Clarke, qui fut un grand scientifique et qui va nous parler justement de ces aspects anglo-saxons, quelquefois des aspects historiques. Et donc je suis moi-même Jean-Claude Dumiac et je suis un peu à la croisée des deux puisque je suis à la fois scientifique dans mon métier et écrivain à mes heures. Et Florence est écrivain aussi d'ailleurs, puisque j'ai vu que tu as un certain nombre de nouvelles qui ont été primées et ça c'est chouette.
Merci.
Et Tom est également traducteur. Tom, au passage, joue un rôle important, puisque c'est grâce à lui qu'un certain nombre d'auteurs français ont été publiés à l'étranger, puisque c'est lui qui fait la traduction en anglais, soit de livres, soit d'un certain nombre de chapitres, pour pouvoir permettre aux éditeurs étrangers de lire ce qu'on fait, ce qui est toujours le bon.
Je pourrais peut-être ajouter aussi que j'ai passé une bonne partie de l'année dernière à traduire « Ciel et espace » en langue anglaise, pour une édition numérique qui faisait. Malheureusement, le conseil d'administration a estimé que le résultat de vente d'abonnement n'était pas suffisant pour continuer l'expérience, mais j'ai bien apprécié. Je ne suis pas expert en astronomie, mais j'ai beaucoup appris.
Et c'est entrevue, Ciel et Espace, que je vous conseille en français.
Donc, rapport entre science et science-fiction, puisque brièvement, vous faites quelque chose.
Il est dans mon sac à dos,
vous pouvez aller
chercher.
Ah, c'est malin. Donc, c'est quelque chose dont on a parlé quand même depuis très très longtemps, cette histoire de mélange entre la science-fiction et la science, puisque dès le début, tout au moins dans le monde anglo-saxon, la science-fiction telle qu'on la connaît est apparue dans la fin des années 20 dans des revues de bricolage. En fait, c'était des revues qui parlaient de comment on installe l'électricité chez soi ou comment on répare sa voiture. Et en même temps, il y avait de l'anticipation scientifique. Et c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça s'adressait donc à un public, le public des MacGyver, le public des bricoleurs, le public des gens qui avaient un tournevis à la main, qui essayaient de comprendre comment ça marchait. Et les vrais scientifiques s'y sont intéressés assez tôt. D'ailleurs, Tom, je crois que dès le début des années 30, il y avait une partie non négligeable des laboratoires scientifiques qui étaient abonnés aux quelques revues qui commençaient déjà à sortir.
Ça, je ne suis pas sûr, mais j'ai lu un peu les biographies, par exemple, des gens qui étaient des pionniers en matière d'informatique. Et c'était tous dans leur enfance, c'était tous des amateurs de radio et des bricoleurs. C'était exactement le public que Hugo Gernsback, qui était le fondateur de Amazing Science Fiction en 1926, c'était exactement le même genre de public qui cherchait à convertir à la science-fiction. Donc, moi, je trouve que c'est très concevable que beaucoup de ces gens ont lu ces revues et on était inspiré à faire carrière scientifique un peu grâce à la science-fiction. Mais ça, c'est une hypothèse.
C'est le premier geek, en fait.
C'est le premier geek, mais ça existait très tôt. Hein. Et il y a au moins un exemple qui est connu et qui est référencé. Il faut savoir qu'en 1941, il y a une revue américaine qui a publié à la fois un éditorial assez amusé qui disait qu'il y avait une petite ville qui avait un nombre d'abonnements à la revue absolument énorme par rapport au reste du pays statistiquement. Et il y avait aussi, c'était vraiment une coïncidence, dans ce même magazine, une nouvelle qui parlait de la possibilité de faire une explosion atomique avec quelques équations. Ce qui avait eu à la revue une descente du FBI, parce que l'endroit où il y avait tout un tas d'abonnements, c'était l'endroit où avait lieu le projet à la bombe de constitution de la bombe atomique. Et évidemment, le mec avait donné l'allocation plus ou moins sans faire exprès. Vous avez vu, on a plein d'abonnés à ce moment-là. C'était vrai qu'il avait acheté un bloc d'abonnés. Et puis, il y avait en plus une revue, enfin, un texte dans la revue qui parlait de bombes atomiques. Donc, j'étais persuadé que la revue essayait d'envoyer des messages aux Russes ou je ne sais quoi. Enfin, donc, il y a eu ce phénomène-là.
Je crois qu'on va un peu vite en besogne quand même, parce que commencer à parler par les revues des années 20 et 30, il y a eu une science-fiction, même si ça ne s'appelait pas ainsi avant ces revues. Je crois qu'il faut d'abord parler de Jules Verne et de H.G. Wells. Et c'est H.G. Wells qui a été le premier à évoquer la possibilité d'un armement nucléaire. Et c'était dans un livre qui s'appelait « La destruction libératrice », écrit en 1914. Sauf que, selon lui, son idée c'était qu'il y aurait une bombe à contenu avec une substance radioactive qui exploserait, mais qui continuerait à exploser pendant des semaines et des mois. Et les effets étaient tellement dévastatrices que finalement tous les pouvoirs se sont réunis en conférence diplomatique pour mettre fin à la guerre et à établir un état mondial. Donc c'était lui qui a eu cette idée. Mais le plus intéressant, c'est que le physicien Leo Szilard, qui a développé la théorie de la réaction en chaîne nucléaire, qui a mené directement à la vraie bombe atomique, a lu ce roman et il dit lui-même qu'il a été inspiré dans ses recherches. Donc ça, c'est une des réussites de prédiction.
Est-ce qu'on peut considérer ça comme une réussite? C'est une question, je ne sais pas. Par contre, H.G. Wells a aussi parlé de l'invasion des Martiens. Et là, il a donc aussi parlé, je crois que c'était aussi une des premières fois, de la possibilité que le système solaire soit peuplé d'autres personnes et que, en fait, les gens aient envie d'y aller pour savoir comment ça se passe. Et toi, Florence, puisque justement c'est quelque chose qui te concerne, ça fait quand même 50 à 80 ans que beaucoup de livres parlent justement de l'envie d'aller dans la Lune, on a commencé par Jules Verne aussi, et l'envie en quelque sorte d'étendre l'espace humain à ces planètes qu'on peut voir avec un petit télescope depuis chez soi. Et d'où ça vient, à ton avis?
De la nature humaine, je pense, d'aller toujours plus loin. Enfin voilà, l'Homo sapiens c'est quand même baladé tout autour du globe, c'est pour ça qu'on a investi toute la planète. Enfin, je pense que c'est une question de. Oui, on a besoin d'aller toujours plus loin, de traverser une rivière, une montagne, un continent, etc. Et il se trouve qu'on a fait le tour de la Terre, alors pourquoi pas continuer et aller plus loin? Je pense que c'est vraiment une question de.
Mais toi qui connais justement ce milieu de l'exploration spatiale, donc des gens, des missions, que ce soit côté ESA ou que ce soit côté NASA ou côté chinois, où ils ont envie de partir sur Mars, est-ce que tu sais si chez eux il y a eu justement des lecteurs de SF et si la SF, en plus de l'envie, leur a donné quelquefois des idées?
Non, j'en sais rien du tout. Cela dit, c'est marrant de enfin, je lis beaucoup Carl Sagan là en ce moment, et c'est vrai que lui, il est quand même scientifique à la base, mais c'est un des premiers qui a amené l'idée de science-fiction de la vie extraterrestre dans le domaine scientifique. Et il me semble que Carl Sagan était quand même un lecteur de science-fiction, je peux me tromper, mais voilà, il en a écrit lui-même. Et du coup, il a beaucoup travaillé sur Vénus et sur Mars en tant qu'astronome. Et c'est marrant de voir que dans les années 60-70, on pensait encore qu'il y avait des canaux sur Mars, qu'il y avait peut-être des martiens, alors que c'était il y a 40-50 ans. Et ça me paraît complètement hallucinant de penser qu'encore si tôt dans l'histoire, enfin si tard plutôt dans l'histoire, on pensait vraiment qu'il y avait des martiens, enfin des civilisations martiennes. Donc alors après, je ne sais pas si c'est une influence, si la science-fiction a influencé le fait qu'on a vu des martiens, ou si le fait qu'on ait vu des canaux depuis Schiaparelli, je crois. L'œuf et la poule, quoi. Dans quel sens c'est arrivé? Après, peut-être qu'on a été pas mal influencé par la science-fiction et qu'on a vu des choses qui n'existent pas. Je ne sais pas. Et qu'ensuite, on a fait de la science et qu'on a envoyé des sondes pour aller voir vraiment sur place et constater que Mars est mort. jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne. Et rien.
Ils sont bien cachés.
Oui, ils sont bien cachés.
Mais je sais que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer lors d'une émission de télé deux cosmonautes, dont l'un qui était le dernier à avoir posé les pieds sur la Lune et qui était ensuite devenu congressman et qui m'expliquait que c'était un fan de science-fiction comme vous n'imaginez pas. Et il m'expliquait qu'il avait lancé justement un groupe de pression américain au milieu de la Chambre des députés pour essayer d'aller sur Mars. Et il avait demandé à Ray Bradbury l'autorisation d'utiliser le terme Martian Chronicles, les chroniques martiennes, pour baptiser son groupe. Et il disait qu'en fait, le fait qu'il soit cosmonaute et qu'il soit membre des députés américains, il avait pu rencontrer tous les auteurs de science-fiction qu'il voulait. Et il disait, j'ai la plus belle collection d'autographes du monde, parce que je suis allé tous les voir, j'adorais ça. Et il expliquait que on n'apportait pas de solution, on ne trouvait pas de solution dans les livres de science-fiction, mais il trouvait à tout moment une envie. Il disait, ça me fait rêver, et c'est parce que j'ai ce rêve-là que j'ai envie d'aller sur Mars. Et il me disait, en tant qu'écrivain de science-fiction, ta mission, ton travail, c'est véritablement de donner aux gens l'envie d'aller là-bas. Et est-ce que la science-fiction, c'est pas simplement fournir des envies, pas tellement fournir des idées, fournir des questionnements, mais fournir des objets de désir ou même des rêves, des objectifs? Tom, qu'en penses-tu?
Je pense que oui, mais je resterai un peu prudent parce que il y a toujours le danger de prendre ce désir pour de réalité quand ce n'est pas possible. Enfin, je garde à l'esprit, tout le monde connaît la loi de Clark selon laquelle toute technologie suffisamment avancée se ressemblerait fort à la magie, mais a formulé une autre première loi qui dit que si un vieux monsieur dans une conférence ou une table ronde vous assure que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Donc je n'ai pas envie d'être ce vieux monsieur aujourd'hui, mais j'aimerais rester prudent. J'étais un peu étonné en regardant le fascicule de l'agence européenne, l'agence spatiale européenne, de constater que les scientifiques prenaient si au sérieux les élucubrations des auteurs de science-fiction. Ils prenaient même au sérieux la propulsion à distorsion de Star Trek comme quelque chose qui pourrait être encore dans le domaine du possible, ou les trous de verre qu'on pourrait les manipuler et les utiliser comme moyen de transport interstellaire. Ils sont très ouverts, les scientifiques, à la science-fiction. Et je trouve ça un peu étonnant.
Alors, en termes de passion, d'envie et de science-fiction, j'ai rencontré Jean-François Clairvoy, qui est un des astronautes français, il n'y a pas très longtemps. Et justement, lui, s'il est devenu astronaute, c'est en partie grâce à Star Trek. Et c'était pas quelqu'un qui regardait la télé du tout, c'était pas son truc. Mais alors Star Trek, il a regardé ça toute sa jeunesse, toute son enfance, toute son adolescence. Et il s'est dit, mais moi, un jour, je vais voyager dans l'espace, je vais être un touriste de l'espace, je vais aller de planète en planète, etc. etc. Et en fait, il s'est rendu compte au bout d'un moment, en grandissant, que s'il voulait vraiment aller dans l'espace, c'était un métier, c'était pas seulement être touriste. Et que donc il fallait qu'il fasse des études, qu'il travaille, qu'il passe des concours, etc. Et donc, mais c'est quand même grâce à Star Trek qu'il est devenu astronaute. Alors tous les fans de Star Trek ne deviennent pas astronautes, ça se saurait. Mais en l'occurrence, c'est un très bon exemple. Et il est allé plus loin que ça. Ce mec est un héros, c'est génial. C'est-à-dire que lui, Jean-François Clairvoy, il a fait trois vols, je crois. Et dans l'un des trois, il est allé réparer le télescope spatial Hubble. Bon, c'est assez classe, des amis comme ça. Et en fait, il était au bout du bras robotique, c'est-à-dire qu'il était dans la navette spatiale et il commandait le bras qui était dans l'espace et au bout duquel il y avait un de ses camarades astronautes attaché par les pieds, au bras. Et donc lui, il pilotait le bras, l'astronaute était au bout du bras dans l'espace. Et en fait, ils s'étaient mis d'accord, puisque tous les deux étaient fans de Star Trek, ils s'étaient mis d'accord pour utiliser les vrais dialogues de Star Trek, mais dans la vraie vie, au moment. Et donc, bon, ils avaient prévenu les équipes au sol d'abord, pour pas que les gars sur Terre se disent, ça y est, ils sont complètement malades, ils ont l'ivresse de l'espace. qu'est-ce qu'on fait. Donc il avait prévenu d'abord, et donc là ils ont communiqué entre eux, donc lui dans la navette, l'autre dans l'espace, avec les dialogues de Star Trek, et c'était un beam-me-up. Jean-François Clairvoyant a vraiment fait zzz, mais en appuyant sur le bouton et en élevant le gars au bout du bras.
Et il y a eu une cosmonaute américaine qui s'appelait Barbara, je ne sais plus comment, ma mémoire me faille, je suis un vieux monsieur, qui paraît a eu une amende de la NASA parce qu'elle disait beam me up Scotty au lieu de ramène-moi au truc. Et il y a eu une telle réaction de fans qui ont envoyé des lettres à la NASA, etc., qu'elle n'a jamais payé l'amende de $100 qu'elle aurait dû payer parce que les gens ont dit non, mais on te pardonne, quoi. C'est sûr, c'est vraiment important.
Oui, non, mais là, il y avait des
autorisations. Et je vous recommande aussi, si vous n'avez pas vu, une vidéo qui date d'il y a 2 ans, je crois, de quelqu'un dans la station spatiale européenne ISS, qui a réinterprété Ground Control to Major Tom de David Bowie. Qui a fait une version absolument bouleversante, et avant de repartir, et qui expliquait que pour lui, pour son idée de science-fiction, etc., c'était pour ça qu'il était là. Quoi. Donc c'est clair que ça existe. Et tu parles de scientifique, tu parles de propulsion. Moi j'ai un exemple qui est un exemple réel, hein, qui n'est pas du tout un truc de poisson d'avril. J'ai lu un article. Dans un journal, un article scientifique, dans un journal publié par la Japanese Jet Propulsion Laboratory Revue, donc un truc science-fiction totalement imitable, enfin vraiment le machin sérieux, quoi. Et c'était quelqu'un qui parlait de la possibilité d'utiliser l'énergie de la mer quantique pour propulser quelque chose. Parce qu'il faut savoir que vous avez, plus ou moins dans les étages de la réalité, vous avez les atomes, puis ensuite on arrive aux quarks. On arrive aux particules, puis on arrive aux quarks qui constituent les particules. Et en dessous de ça, un certain nombre de scientifiques pressentent qu'il existe une espèce de mer d'énergie, plus ou moins décrite par la théorie des cordes, et encore qu'on a besoin de descriptions supplémentaires, et que cette mer d'énergie, de temps en temps, vous avez une vague qui se forme, qui crée une espèce de proto-particules qui se détachent, puis qui retombent, qui se remélangent au truc. Enfin, la matière est une espèce d'écume de cette mer. Et bon, le scientifique avait des tas d'équations et il expliquait qu'on pouvait, si on arrivait à faire la pince à linge, la pince à épiler suffisamment petite, prélever une partie de cette énergie. Et il avait dit, si on prélève plus de 12%, je viens sur le chiffre, 12% de l'énergie locale de la mer quantique, on risque de perturber la structure même de la réalité. Et il avait ajouté, je ne recommande pas cette solution.
On n'y est pas encore, je crois.
On n'y est pas tout à fait encore, mais j'ai quelqu'un qui a écrit un article scientifique publié dans une revue scientifique disant ben voilà, quand on attaque le truc, on creuse un trou dans l'univers et à partir de là on risque de tout péter, donc il faut pas le faire.
C'est joli comme science-fiction.
Ah oui, c'était
comme idée de.
Mais c'était une vraie idée. Et on parlait donc de ce magazine là, de l'Agence spatiale européenne. Il faut savoir qu'en 2002, l'Agence spatiale européenne a fait un magnifique objet, une revue, enfin un exemplaire unique. Qui a été distribué en plusieurs langues, et dans lequel elle a demandé à des écrivains de science-fiction dont je faisais partie, à des illustrateurs, de faire le tour de tous les concepts dont la science-fiction avait parlé, ou qu'elle avait prédit, ou qu'elle avait même imaginé, pour savoir si on pouvait en tirer quelque chose. Mais ça allait du scaphandre spatial, à la propulsion hyperluminique, à tout un tas de machins et de trucs. Et c'était absolument fascinant parce que c'était vraiment l'Agence spatiale européenne qui le faisait. C'était pas pour le plaisir, c'était pour dire il y a certainement des idées à creuser là-dedans. Et donc nous, écrivains de science-fiction, on écrivait une partie dans laquelle on disait voilà ce qu'on a imaginé, et on avait malheureusement des scientifiques qui nous disaient c'est pas possible parce que. Et c'était pas tous des vieux monsieur, c'est embêtant. Parce que comme dit Tom, quand c'est un vieux monsieur, on se dit bon, il comprend rien, il est complètement dépassé. Et quelquefois on avait des jeunes qui nous arrivaient en disant je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Et en général, ils ajoutaient, et je vais t'expliquer pourquoi on va faire mieux. Et là, ça devenait intéressant.
Mais je suis d'accord quand même sur un point que la science-fiction peut créer des objectifs, enfin des objets de désir, des objectifs pour sortir un peu du domaine spatial, parler de l'invisibilité, une idée qui a utilisé Wells dans Nos mains invisibles. Bon, on n'arrivera pas selon le moyen décrit par Wells. Mais on travaille sur des façons de rendre les gens ou les objets invisibles en utilisant des senseurs, des espèces de caméras qui captent l'arrière-fond et le projet en avant. Et donc on peut imaginer d'atteindre les objectifs mais par des autres moyens. toujours, si la science-fiction fixe une chose comme, par exemple, un communicateur portable, on trouvera un moyen de le faire. Mais je pense que, en partie, un truc comme un téléphone portable a été inventé pour répondre à un désir qui a été créé par la science-fiction.
C'est sûr, quand on voyait Star Trek, on voyait les gars qui faisaient leur truc, là, qui sortaient ça, qui disaient, qui appelaient le vaisseau mère, qui était situé à des millions de kilomètres, on se disait, je vais être capable de faire ça. Et il y a pas mal de gens qui ont intégré ça dans leur idée. Mais ils ont intégré aussi le fait que la science-fiction a donné du savant, et surtout de l'ingénieur, plus que du savant. Le savant, c'est toujours un type avec une blouse grise qui sent un peu la craie, qui est légèrement dégarni, puis qui ne plaît pas aux femmes. Par contre, l'ingénieur technique, c'est toujours MacGyver. C'est le mec qui est assez beau gosse, il plaît bien aux filles. En général, c'est lui qui se tape la fille du savant. Et surtout, il fait plein de choses. Il a un côté actif, créateur, changeur de monde que les gens aiment bien. Et faire d'un ingénieur un héros, c'est une chose que la littérature ne savait pas faire. Et il y a une autre catégorie de gens dont la science-fiction a fait des héros, et croyez-moi, je m'en suis profondément reconnaissant, c'est les informaticiens. Parce que j'ai fait mon doctorat là-dedans, j'ai fait partie de ma vie de recherche là-dedans, et sur ce qu'on appelait les superordinateurs. Et quand j'ai commencé, dans les années 78-79, l'informatique, c'était des salles blanches, c'était des types en blouse blanche, c'était des lunettes, des grosses lunettes d'écaille, puis c'était pas du tout glamour. Et puis, il est arrivé des gens comme William Gibson ou les cyberpunk qui ont dit « Ah non, c'est pas vrai, l'informaticien, c'est un type, d'abord, il a des super lunettes miroirs, puis il a un truc de cuir, puis c'est un héros, et puis vous allez voir, c'est un vrai pirate. » Enfin, on avait Johnny Depp dans le rôle, quoi. Et à ce moment-là, on a dit « Waouh, on est des héros. » Et on a tous voulu ressembler à ces gens-là. Et je peux vous garantir, pour l'avoir vécu de l'intérieur, que le basculement s'est fait en 2 ans. Véritablement, on est passé du stade de « on est sérieux, on est en blouse blanche » au stade de « on vient avec le bandana, on vient avec le cuir et on dit « allez les mecs, je vais défoncer cette machine ». Donc ça, c'est la science-fiction qui nous l'a porté et personne d'autre.
Mais avant ça, je tiens juste à rappeler qu'au niveau informatique, dans les années 60, c'était des femmes en fait, les héros, puisque Catherine Johnson, je ne suis pas sûre du nom, mais je pense que c'est ça, et Margaret Hamilton sont les personnes qui ont inventé les logiciels et tout ce qu'il y a avec, qui ont permis aux hommes... Parce que c'était que des hommes de se poser sur la Lune. Voilà, ça fait plaisir. Donc
mais c'était vrai, et il faut savoir.
Il y a des choses moins connues que.
Moins connues, ça dépend. Je peux dire dans le milieu, on connaît. Et surtout, l'informatique, à d'entrée, était une science dans laquelle les femmes étaient à 50%, si je veux que ça puisse permettre, parce que c'était véritablement une histoire de cerveau à cerveau. Hein, puisque l'informatique, c'est vraiment apprendre à communiquer avec quelque chose qui est plus têtu que soi, et quelquefois plus bête que soi. Bon, une des raisons pour lesquelles je suis un bon informaticien, je le dis, c'est parce que j'arrive à un niveau de stupidité suffisant pour comprendre la machine et pour arriver à lui parler. Je suis né comme ça, si vous voulez, c'est une espèce de talent, mais arriver à être très con, c'est vraiment un boulot dont on a. Enfin, c'est un métier, quoi, c'est quelque chose. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'on était partagé avec. On avait beaucoup de femmes dans nos équipes, c'était génial, on était à 50%, et ça a entraîné un rapport au monde qui était très très particulier, c'était chouette.
Bon, il y a les femmes, je me rappelle d'une histoire un peu triste, d'une des programmatrices de ENIAC, qui était le premier ordinateur électronique à usage général. Et pendant qu'elle faisait la programmation de la machine pour une démonstration au grand pont de l'armée qui débarquait pour voir à quoi servait leur sous, et ses chefs de service lui donnaient des bouteilles de whisky pour l'alimenter pendant les semaines et les semaines de travail minutieux à programmer le truc, mais au moment de fêter l'événement, elle n'était même pas invitée. Toutes ces femmes leur travail n'était pas reconnu.
Oui, mais
j'ai un peu la même réaction quand j'ai entendu parler des cyberpunk, des auteurs comme William Gibson et Avery Sterling, parce qu'en effet, il y avait des vrais hackers à la fin des années 60 et pendant tous les années 70 qui ont travaillé à faire le monde informatique qu'on connaît, qui sont plus que nous. En fait, l'ordinateur personnel et Internet, tout ça est un peu grâce à un réseau de fous de l'informatique avant l'heure. souvent venus curieusement de mouvance hippie à San Francisco, qui ont migré vers Palo Alto. Il y avait Stuart Brandt, qui est un ami du Grateful Dead, un ami de Ken Kesey, de ce level test de LSD. Il était aussi un fou de l'informatique. Il a fait une démonstration, en décembre 1968, où il faisait une démonstration du souris de l'écran avec des fenêtres qui a été utilisée plus tard par Apple, par Steve Jobs, qui l'a piqué. Et puis...
Non, il n'a pas piqué, qui a obtenu le droit d'utiliser. Non, ne dis pas piqué. C'est sincèrement, Steve Jobs et Steve Wozniak, qui étaient les fondateurs d'Apple, c'était justement des gens qui ont dit, puisque l'armée n'en veut pas, nous on va le faire. Et ils l'ont fait avec les gens de Palo Alto. Enfin, ils ont...
C'était pas l'armée, c'était Xerox qui voulait pas, parce que Xerox pensait que le photocopieur était le roi de la technologie et qui acceptait pas de... n'acceptait pas l'idée de faire une expérience en ordinateur personnel. Et donc, ils n'ont pas voulu, et c'est là que Steve Jobs a débarqué dans le labo de Xerox et a dit, bon, si vos chefs ne veulent pas, moi je veux.
Oui, tout ça, c'est typiquement, on en parlera avec Florence, mais c'est typiquement un exemple justement où la science-fiction et la démarche de pensée associée à la science-fiction a permis à des concepts comme l'ordinateur individuel, surtout comme le fait que l'information, parce que l'ordinateur c'est juste un moyen, on s'en fiche, et que l'information était disponible et devait être partagée. Parce qu'actuellement, quand on vous parle de, on vous dit Internet doit être libre. Internet, par définition, c'est un endroit libertaire, c'est un endroit où l'information circule, etc., etc. C'est vrai et faux. C'est vrai et faux parce que l'Internet dont vous parlez, c'est le web. C'est-à-dire quelque chose qui a été conçu, une interface pour Internet, conçue par un monsieur qui était au CERN, qui s'appelait Tim Berners-Lee, qui a changé le monde. Lui, il l'a fait justement pour que tout ceci communique, tout ceci puisse être échangé, pour qu'on puisse, à partir du moment où on décide que l'information est là, la référencer et la multiplier. Lui, il a perdu ça. Mais Internet, c'était pas ça du tout. Internet, c'était un moyen de faire circuler l'information contrôlée par l'armée. C'était un truc qui a commencé sous le nom de ARPANET et avant même sous le fondement de réseau, qui était simplement prévu pour qu'en cas d'explosion atomique, on ne coupe pas les communications entre l'état-major, le bunker enterré du président et les différents endroits autour des États-Unis et quelquefois autour du globe où se trouvaient les armes et se trouvaient les armées. Donc c'était un truc qui avait été conçu comme une grille décentralisée où même si on coupait des nœuds, il y avait d'autres chemins pour passer. C'est-à-dire que normalement on fait le trajet le plus simple, mais quelquefois on vous coupe des trucs au milieu, ben vous faites un trajet tout le tour, mais vous y arrivez. Vous perdez une fraction de seconde, mais vous y arrivez. Donc c'était un réseau en quelque sorte impossible à détruire et contrôlé par les militaires. Et Internet, à l'origine, c'est ça. Il ne faut pas savoir qu'Internet a été un objet libertaire dans l'esprit. C'est l'utilisation d'Internet, l'interface d'Internet, donc Tim Berners-Lee et d'autres, qui ont dit ça doit être libertaire. Et ça, il y a une influence de science-fiction très nette là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'information qui est né effectivement dans les années 60 aussi, parce que les années 60 ont été une année aux États-Unis, on l'a pas bien connu, nous on l'a pas vu, mais ils ont eu l'équivalent de leur mai 68, ils ont eu l'espèce de révolution où ils ont dit « il y en a marre qu'on nous cache des choses, nous voulons vivre, entre guillemets, au grand air », pour des raisons tout à fait différentes de celles qu'on connaît en Europe, mais en tout cas ils voulaient que les choses soient disponibles, que l'information soit faite, et il y avait effectivement un grand nombre de femmes dans ce mouvement-là. Une façon évidente qui disait on expose et on communique, on échange. Et qui ont fabriqué des objets, qui ont fabriqué des techniques, qui ont écrit des programmes pour permettre à ça de se faire.
Mais l'espace aussi a d'abord été quelque chose de militaire pour devenir ensuite quelque chose de pas de grand public, mais je veux dire de civil en tout cas. Et c'est parti aussi des années 60, enfin des années 50, début des années 60. Et je ne sais pas à partir de quel, je sais plus quand a été inventé le web, je crois au début des années 80.
Non, fin des années 80.
Fin des années 80, au CERN. Enfin, si vous allez au CERN, en tout cas, il y a vraiment le bureau avec une plaque à côté. Là a été inventé le web. C'est génial. Voilà, allez-y si vous avez l'occasion. C'est assez émouvant en fait comme endroit. C'est un couloir absolument épouvantable. On se croirait justement dans un vieux film de science-fiction des années 50. Mais parce que ça, les bâtiments sont vieux. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'il y a, un parallèle entre Internet, le web et la conquête spatiale qui est devenue une exploration spatiale par ailleurs. Et tout ça s'est passé dans le même contexte socio-historique.
Y a un livre de science-fiction qui est sorti, et je crois que c'est Terry Pisson, qui raconte qu'il y a des vaisseaux qui partent sur Mars, mais en fait ils sont sponsorisés par Coca-Cola et tout ça, parce que comme les militaires ont renoncé à y aller, c'est le grand public qui, effectivement, les sociétés qui font pour des raisons de pub. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film absolument extraordinaire qui s'appelle Iron Sky, qui est un film totalement parodique, où la raison pour laquelle on revient sur la Lune, et on voit une espèce de mannequin noir totalement charmé, c'est pour des raisons publicitaires, en fait. C'est pas du tout pour la vérité. Et c'est là que on découvre que les nazis ont tué pas derrière la lune.
Mais je sais plus si c'est une nouvelle d'Isaac Asimov ou de Frederick Brown, où effectivement les étoiles bougent dans le ciel, et en fait à la fin on se rend compte que c'était effectivement une publicité et ça faisait le nom d'une marque. Les étoiles ne bougeaient pas vraiment, mais en tout cas l'illusion était faite pour ça, et tout le monde se disait ça y est, c'est la fin du monde, les étoiles se mettent à bouger à une vitesse incroyable, et en fait non, c'était juste une illusion optique d'une marque pour faire sa pub, et en fait c'est horrible parce que finalement il y avait une faute d'orthographe dans le nom, et c'était la fin du monde pour la marque en question, mais évidemment c'est beaucoup mieux écrit que je ne le raconte. Et je ne sais plus si c'est Frederick Brown et Isaac Asimov, mais dans tous les cas, je pensais les deux.
Je crois qu'il y en a deux choses. Une chose, c'est fixer des objets de désir, puis il y a les savants, les technologistes qui disent on peut arriver par notre voie. Et puis il y a la science-fiction qui peut dire bon, on a ces moyens qui sont utilisés maintenant à des fins militaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec qui a d'autres objectifs pour utiliser les technologies qu'on a ou qu'on est en train de développer. Donc il y a cette vie dynamique qui joue.
Mais là en ce moment j'ai l'impression que la science-fiction booste beaucoup l'exploration spatiale avec l'annonce le 12 avril dernier du projet Breakthrough Stardust. Par Stephen Hawking, Yuri Milner et Mark Zuckerberg, qui veulent envoyer des nano-vaisseaux dans l'espace interstellaire, donc à la rencontre d'autres étoiles et des exoplanètes. Et c'est un projet complètement fou, qui est de la science-fiction à l'heure où on parle, mais qui n'en sera peut-être plus dans 20 ans. Et ça, je trouve que c'est bien de partir d'une idée de SF à l'heure où on parle, pour éventuellement arriver à faire ce projet et à envoyer des nano-vaisseaux à 20% de la vitesse de la lumière pour atteindre Alpha du Centaure peut-être dans 20 ans. Voilà, moi j'aime bien l'idée que la science-fiction booste l'exploration plutôt que la guerre froide booste la conquête spatiale. Voilà, je préfère cette démarche-là plutôt que celle qu'on avait il y a 40-50 ans. Après, bon, la Chine a des... sûrement des ambitions géopolitiques en voulant aller sur la Lune et puis sur Mars, et voilà, mais bon, au moins on a bonne chance.
Il y a même plus que ça. Je peux vous raconter une anecdote complètement bizarre, mais qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Il y a un an de ça, j'ai signé un contrat musical pour telle chanson, je ne sais pas ces détails, j'ai signé avec Sony. Et le contrat mentionnait que je leur cédais les droits de la chanson pour la Terre et l'ensemble du système solaire. Et quel dans le contrat, non, je ne raconte pas de blague. Alors j'étais avec les gens de Sony, là, j'étais en bureau, puis je lis ça, puis je lis mon contrat, toujours, j'éclate de rire. J'ai dit, écoutez, ça ne me dérange pas de le signer, hein, mais je dois vous dire, sur Mars, je ne vends rien. Donc, c'est vraiment un truc. Et là, je vois le type de Sony tout à fait sérieux qui me dit, mais tu ne te rends pas compte du problème? J'ai dit, non, je ne vois pas. Et il me dit, c'est très simple. On a de plus en plus d'objets qui sont en orbite. Qui par conséquent ne sont plus assujettis aux droits commerciaux et droits d'auteur de la Terre, parce qu'ils s'arrêtent à la limite de l'atmosphère. Typiquement, la chanson du cosmonaute qui reprend David Bowie, c'est libre de droit, puisqu'il l'a fait en dehors de l'espace. légalement, n'importe quel avocat peut vous dire non, il n'y a rien à payer. Et les Chinois sont en train de mettre en orbite un ensemble assez dense de satellites de télécommunication, mais avec l'idée, la réalité, de dire à partir de ces satellites-là, on peut diffuser, broadcaster tout un tas de choses qui deviennent libres de droit. La diffusion en orbite devient libre de droit. Et donc je ne paye rien à personne. Et maintenant, un certain nombre de sociétés font re-signer des contrats en disant « Attendez, le contrat de truc qui s'adresse à la totalité du système solaire. » Et moi, j'ai bloqué. Mais je n'imagine pas, c'est une histoire réelle, c'est vraiment quelque chose.
C'est génial.
Oui, mais il y a eu, vous avez connu peut-être, si vous avez un petit peu piraté sur Internet, ce qui est très évident et j'ai fait comme vous, c'est un truc qui s'appelait The Pirate Base, qui était un site de pirates, je crois qu'il était suédois, c'est pas le genre. Et bien, une des raisons pour lesquelles pendant très très longtemps on n'a pas pu empêcher leurs serveurs de continuer à exister, c'est parce que les serveurs n'étaient pas sur le sol, ils étaient liés à des dirigeables et des drones, ils étaient à plusieurs kilomètres d'altitude, donc en dehors de la zone de saisie théorique. Des trucs. Donc on leur disait très bien, mais interdit, eh ben, allez les chercher, ils sont là. Et ils en avaient plusieurs, ils en lançaient plusieurs, et donc de temps en temps ils étaient réglés entre les deux, il y en avait qui se posaient, qui étaient quelquefois saisis, et les autres étaient en l'air. Enfin, comme c'est du matériel qui coûtait pas cher, il y avait des drones qui voyaient tout. Non, non, c'est un vrai problème. Actuellement, l'espace est une chose qui pose un problème. Quand j'étais petit, quand mes filles étaient petites, je leur ai offert à chacune un petit morceau, je crois que c'est un morceau de Vénus. Vous pouvez acheter un petit bout de terrain sur Vénus, qu'on pouvait acheter sur la Lune, etc. Ça coûtait quelques dollars, on avait un magnifique diplôme en disant qu'on était propriétaire du truc. Mais il y a des gens qui ont dit, mais moi je suis propriétaire du truc, donc si jamais le vaisseau, exploration sur Mars ou sur Vénus se passe là, il a le droit de payer. Et la façon dont les Nations Unies ont résolu le problème, parce que c'est allé jusqu'à la course, c'est qu'ils ont dit, d'accord, mais il faut que vous y rendiez tous les 10 ans pour pouvoir compléter. Donc, dès que vous y êtes allé, vous avez planté un truc, c'est à vous. Alors évidemment, ça bloque un peu. Donc j'ai dit à mes filles, écoutez, si vous n'y allez pas, hein, dans quelques années, c'est perdu. Bon.
Je leur conseille pas d'aller sur
la Lune. Oui, ça fait pas envie, c'est sûr. Mais la Lune non plus, hein, d'une certaine façon, ça a l'air vachement joli, mais bon, peut-être pas pour y passer les vacances.
Mais alors, j'ai une question sur cette, sur cette histoire de droit de diffusion. Si par exemple, Carl Sagan a écrit Contact, et dans Contact, il y a un signal radio qui leur revient, qui est la première émission télévisée, qui était l'ouverture des JO de 36 à Berlin, avec Hitler et tout. Bon, mais si par exemple, j'en sais rien moi, parce que ça fait quand même 50, 60, 70 ans qu'on envoie des chansons dans l'espace, hein. Donc elles ont fini par croiser quelques étoiles et potentiellement quelques planètes et potentiellement quelques antennes extraterrestres. Si on reçoit en retour là une chanson des Beatles d'une civilisation, ils vont devoir payer des droits pour avoir diffusé la chanson des Beatles ou comment ça se passe?
Ça dépend. Mais actuellement, d'abord, je ne sais pas si les Beatles sont signés pour l'ensemble du système solaire. À mon avis, John Lennon, non. Bon, je veux que je le vois, c'est une question. Et puis, je ne sais pas si le signal d'envoi est considéré comme faisant partie du système solaire. Mais par contre, il est certain que si, par exemple, on imagine un vaisseau extraterrestre qui est amical, qui débarque dans le système solaire et qui, pour expliquer qu'il est amical, nous envoie tout un tas de chansons de Tokyo Hotel pour nous expliquer qu'il nous connaît. Alors déjà, est-ce que ce sera vu comme amical? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est au moins le fait de dire, écoutez, j'ai pris un contact. Eh bien, je ne sais pas s'ils auront des droits payés. C'est en tout cas une situation intéressante.
Ce serait pas très, très gentil comme accueil.
Ah ben, de toute façon, tu peux faire confiance aux avocats pour justement accueillir les gens avec une facture à la main.
N'envoyez pas les avocats pour accueillir les extraterrestres.
Et alors maintenant, si vous me permettez, je vais déprimer tout le monde, parce qu'après tout, c'est un exercice amusant, puis on fait ça en science-fiction. Là, nous avons parlé des envies que la science-fiction a créées. Mais nous avons aussi la science-fiction qui était une littérature pas du tout gay dans l'ensemble, et plutôt relativement pessimiste, même s'il y a des gens qui ne le sont pas. Elle a beaucoup dit de warning, et elle a parlé dans tout un tas de domaines de choses qui étaient effrayantes et que la science, le progrès, allait générer. Par exemple, elle a parlé en biologie, elle a parlé d'épidémie, elle a parlé de transformation de l'être humain, et en général, ça donnait des résultats catastrophiques. Elle a parlé de tout un tas de choses de ce genre. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression, quelquefois, que la science-fiction n'a pas été très écoutée? Par exemple, sur le plan écologique, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que les prédictions de science-fiction, qui quelquefois se sont avérées, auraient dû être traitées un peu plus attentivement?
Déjà qu'on n'écoute pas les scientifiques sur cette question.
Oui, mais nous, on s'adresse directement aux gens, c'est-à-dire on a le sentiment que le public devrait avoir un niveau de conscience un peu plus élevé. En même temps, pour être clair, sur le plan de la biologie typiquement, c'est un domaine dans lequel on s'est beaucoup tourné vers la science-fiction quand on a fait des clones, par exemple. À l'époque de la brebis d'Oly, tous les auteurs de science-fiction français passaient à la télé. Parce qu'on nous disait, vous pensez quoi de la brebis d'Oly, vous avez l'impression que c'est la fin de l'humanité, etc. Vous, en tant qu'auteur de science-fiction, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, d'abord, on n'en pensait rien, parce qu'il faut être clair. Et puis surtout, c'est un domaine dans lequel on s'est fait, nous, auteurs de science-fiction, avoir. Parce qu'il y a des choses qu'on a découvertes avec la brebis d'Oly qui, a posteriori, étaient une évidence totale et que personne, côté science-fiction, n'avait eu. Par exemple, on a tous créé des clones en science-fiction. Trouver ça génial, on a créé des clones. Seul problème, un clone a l'âge de la cellule qui sert à le fabriquer. Donc un clone, ça n'est déjà vieux. Comme la brebis d'Oly, quand elle est née, quand c'était un tout petit agneau, elle avait déjà je ne sais plus combien d'années. Donc elle souffrait d'arthrose. Et ça pose un problème, ça a d'ailleurs bloqué tout un tas d'idées sur le clone, parce qu'on ne peut pas prendre un individu adulte et en faire un clone. Le temps que ce clone devienne adulte, il aurait 120 ans. Donc ce serait un petit vieux dans un on en ferait rien. Donc il faut imaginer faire un clone qu'à la mort du bébé au moment où il est à l'état de fœtus. Et à ce moment-là, on tente faire des jumeaux, c'est la solution plus simple. Et donc ça on n'a pas vu. Et en biologie, on voit en ce moment tout un tas de bouquins qui écrivent l'épidémie, les zombies par exemple, c'est l'épidémie tirée du laboratoire, des gens qui ont fait des recherches en biologie, qui font des recherches sur les OGM, la transformation de l'humanité et tout ça. Et donc on se fait peur.
Mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, j'ai l'impression que c'est dans le sens en fait. C'est la réalité qui inspire la science-fiction. Moi de plus en plus, je suis épatée. Du fait que la science-fiction, j'en lis, et c'est de plus en plus des problèmes liés au réchauffement climatique. On va plus dans les étoiles, on va plus, ou alors si on y va, c'est parce que la Terre est en train de mourir, que nous sommes en train de mourir sur Terre, et que, voilà, par exemple, Maxime Chatham, c'est à destination des jeunes lecteurs, et c'est clairement ça. C'est la Terre qui se rebelle contre l'humanité qui l'a un petit peu.
Abîmé.
Comment dire, abîmé. Voilà. Interstellar, il y a pas longtemps au cinéma, c'est pareil. C'est la base du truc, c'est on va voir ailleurs parce qu'on ne peut plus vivre sur Terre. Globalement, j'ai l'impression, mais pour les bombes atomiques et tout, c'est pareil. Je pense qu'il y a des périodes où les écrivains de science-fiction s'emparent de problématiques qui sont liées à leur contexte historique. Il y a beaucoup, et les Martiens, c'est pareil. Enfin, je pense que. Encore une fois, c'est une question de poulet d'œuf, mais je pense que les écrivains vivent dans un certain contexte socio-historique et prennent des thématiques qui les perturbent, et ensuite, avec leur imagination, voir un petit peu plus loin. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'au cinéma et dans la littérature, de ce qui sort en ce moment, c'est beaucoup lié au problème du réchauffement climatique, et on se recentre sur nous plutôt que de s'ouvrir. Vers un avenir radieux où nous allons croiser des extraterrestres et ça va être la fête. Et mais non, c'est plutôt on va tous mourir.
Bon, deux choses. Je crois que ce n'est pas la fin d'essayer que la science-fiction n'a pas alerté l'opinion publique des dangers. Prenons un exemple comme Robert Heinlein qui, dès les années 40, disait que notre dépendance sur le carbone fossile était une fausse route. Et en fait, il imaginait tout un réseau de tapis roulants pour l'accélérer, traversant toute l'Amérique comme alternative de transport. Ça semble farfelu, mais ça partait de son préoccupation sur le pétrole, notre dépendance sur le pétrole. Les problèmes de pollution étaient évoqués par John Brunner dans les années 60. La science-fiction a pris en compte le changement climatique très très tôt, début des années 90. Mais ça n'a pas.
Bien avant, Gregory Benford en a fait pratiquement dans les années 70. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était juste les petits lanceurs d'alerte et les gens disaient qu'on était là pour en fait faire de catastrophes. On n'était pas là parce qu'on avait sérieusement réfléchi au problème. Or, les écrivains de science-fiction, il leur arrive de réfléchir sérieusement au problème. Ça ne veut pas dire que ce soit des scientifiques, ça veut dire que ce sont des gens intégrés dans une société, des gens donc, sociologiquement actifs, qui s'interrogent sur l'effet de ce qu'ils voient autour d'eux sur la société du futur.
Le deuxième chose, c'est l'espace. Je ne sais pas, j'ai un peu l'impression maintenant, avec recul, parce que ça fait une grande partie de ma vie à moi, que la science-fiction a peut-être eu l'erreur de choisir l'espace comme terrain, comme domaine de prédilection. Parce que bon, la science-fiction anglo-saxonne, mais aussi soviétique, était développée en grande partie autour de la course pour l'espace. Et cette course était des vols habités. Une des raisons que j'aime Clark, en particulier parmi les grands auteurs, c'est parce qu'il avait la vision la plus développée, la plus intégrée de ce qui pourrait être un avenir post-Apollo, où on irait à la conquête du système solaire avec différentes technologies, voile solaire, ascenseur orbital, enfin, tout était développé et d'ailleurs il y a eu la bonne idée de faire équipe avec Stanley Kubrick pour montrer ça à l'écran dans 2001 d'une façon très éclatante et peut-être le plus insolite dans cette histoire, c'est qu'il y a pu le montrer presque sans explication verbale. C'était tellement flagrant. Et donc ce rêve-là, cette vision-là a dominé la science-fiction pendant tout le XXe siècle. Et maintenant, on se demande, bon, 2000 ans et déjà il y a 15 ans, où est-ce qu'on est? On n'est pas sur la Lune, on n'est pas allé jusqu'à Mars, et on est loin d'être de Jupiter et Saturne. Mais on ne regarde pas ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est des missions scientifiques, peut-être robotiques, mais qui sont très excitantes. Tu as évoqué cette première mission interstellaire par robot, certes, mais ça va nous donner des données, ça va nous donner des connaissances, et c'est très très excitant. On fait des progrès, mais ce n'est pas les progrès qu'imaginait Clark et les autres grandes science-fiction, parce qu'ils s'étaient fixés sur l'idée de vols habités, sans prendre en compte les contraintes physiques, biologiques, écologiques que ça implique. Mais même maintenant, il y a des grands auteurs de science-fiction qui commencent à mettre en cause cette vision. Je suis très influencé par un roman que je ne veux pas trop révéler parce qu'il n'est pas encore traduit, de Kim Stanley Robinson, Aurora, son dernier roman, qui est une histoire très étonnante de mission interstellaire, mais pessimiste, qui montre tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Et ça va déconcerter pas mal de fans de science-fiction qui disent « Oui, on peut le faire, on peut le faire. » Il te montre que non, tout n'est pas possible. Parfois, il faut accepter ses limites, mais dans ses limites, il y a encore des possibilités presque infinies.
De toute façon, il faut savoir, quand on est écrivain de science-fiction, qu'on a deux règles. La première, c'est de dire, quand on décrit une situation, si ça peut merder, ça va merder. C'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est, si ça ne peut pas merder, c'est encore plus jouissif de le faire merder. Donc, le résultat des courses, c'est que de toute façon, ça va merder. Vous vous préparez. Après, la question, sinon, il n'y aura pas d'histoire. Mais la question de savoir si on vous sauve à la fin ou pas, c'est suivant l'humeur du moment. Je vous garantis que si j'ai reçu mes impôts la veille, à mon avis, mes personnages meurent. Mais c'est vrai que dans notre thème, c'est quand même ça. Et il faut savoir aussi une chose, toutes les entrées mises à part. La science-fiction a quand même été aussi le reflet et l'épicentre de gros problèmes qu'il y a eu entre la science, cette fois la vraie science, et la population. La science, à certaines époques, je pense à l'époque de Jules Verne, l'époque excitante, avant les premières guerres mondiales, était quelque chose d'excitant. C'était quelque chose qui allait dans le bon sens, c'était un bénéfice de l'humanité. On a connu la première guerre mondiale, où effectivement les boucheries qu'il y a eu dans la première guerre mondiale, qui sont terrifiantes, ont été dues aussi au fait qu'un certain nombre de stratégies n'étaient pas adaptées au progrès scientifique. Vous avez une mitrailleuse, vous continuez à charger à cheval. Je dis, non, pas face à cette mitrailleuse, c'est complètement con. Face à des fusils, ça peut s'imaginer, pas face à cette mitrailleuse. Donc, boucherie due au fait que le progrès avait posé le problème. Et ça a culminé au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la guerre froide, parce qu'à ce moment-là, les scientifiques étaient responsables du fait que les bombes atomiques allaient tomber dessus. Donc la science et les scientifiques n'étaient pas bien vus. Le phénomène hippie dans les années 60, c'était vraiment un phénomène de rejet de la science dans ce qu'elle pouvait avoir de triomphateur et de dangereux. Et bon, il y avait des trucs historiques, ça remontait à des gens comme Thoreau, etc., qui parlaient du retour à la nature, de la simplification, mais ça a toujours été une composante de la vie américaine. Et puis, on a eu Apollo, on a eu un certain nombre de choses excitantes, et là maintenant, on recommence à avoir un très très gros pessimisme vis-à-vis de la science, en raison du réchauffement climatique aussi un certain nombre de fois, en raison du fait que les scientifiques ont été les premiers et continuent à dire « mais c'est vrai », alors que le public n'a pas envie que ce soit vrai. Les Américains, quand vous parlez avec eux, beaucoup d'entre eux disent « mais c'est pas vrai, c'est fait pour nous tromper, c'est fait pour favoriser les Russes, etc. » Et vous avez des gens qui sont vraiment comme ça, quoi. Donc les scientifiques ont mauvaise presse. Alors que la réponse des scientifiques vis-à-vis du réchauffement climatique, c'est de dire « on a besoin d'encore plus de science, d'abord pour mieux comprendre, ensuite pour mieux combattre, ensuite pour trouver des solutions alternatives et rendre à nouveau la planète vivable. » Et ça, c'est cette espèce de divorce-là, la science-fiction le prend de plein fouet. C'est-à-dire que nous vivons actuellement une situation dans laquelle le pessimisme qui règne percole dans nos livres, on ne peut pas s'en empêcher.
Mais en même temps, enfin, oui, non mais c'est vrai, c'est dramatique, mais j'ai juste une anecdote, je ne sais pas si c'est un rapport, mais je pense, j'imagine que vous connaissez Terminator. Moi je l'ai vu au début des années 90, quand j'étais petite, et je trouvais ça formidable, je trouvais ça génial, j'étais amoureuse du robot, voilà. Mais et il se trouve qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, Google a racheté toutes les entreprises de robotique qui travaillent avec l'armée américaine, et j'ai vu les robots, et j'ai revu Terminator, et je me suis pris une grosse baffe. Et là je me suis dit, ah ouais, ce qui était vraiment de la science-fiction au début des années 90, ben, ça n'en est plus vraiment. Et ça m'a fait vraiment très bizarre, parce que j'ai pas regardé Terminator du même œil, quoi. Et même si le mien n'était pas biologique, c'était quand même très étonnant. Et là, on se dit, oui, on peut comprendre qu'il y ait une méfiance du grand public à l'égard des scientifiques, même si je le déplore, que je le regrette, et que ce que je fais tous les jours, c'est d'essayer de réconcilier les deux, mais... c'est vrai que c'est enfin voilà, il y a un vrai sujet là de société. Alors après, ça c'est dans la robotique. Bon, là, le réchauffement climatique, c'est évidemment beaucoup plus problématique parce que les enjeux sont énormes, touchent tout le monde, et que de toute façon, quand il y aura plus d'énergie, il n'y aura pas de robots, donc ce sera réglé. Hein, voilà. Voilà, je ne sais pas si ça avait un rapport avec la question, mais
mais il est évident que dans 50 ans de ça, donc une chose que vous, une grande partie du public, vous vivrez, le rapport à l'énergie ne sera pas le même, le rapport à l'environnement ne sera pas le même, la manière dont les endroits dans lesquels vous vivrez prendront conscience de vous et interagiront avec vous seront complètement différents. C'est vraiment c'est facile de faire cette prédiction, mais croyez-moi, c'est le cas. Dans 50 ans, le simple fait de se déplacer d'un endroit à l'autre ou de communiquer avec les gens, ou communiquer avec sa maison, ou communiquer avec son bureau, n'aura pas du tout la même approche que maintenant. Et moi-même, dans ma vie, j'ai vu tout un tas de changements. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a connu la cassette, puis après qui a connu le CD, puis qui après qui a connu le gros MP3 à emporter. La cassette,
oui. Bien sûr.
Mes enfants qui ont ton âge, si tu veux, la cassette, on en a vu, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le budget du passé.
Ah oui, non, mais moi j'ai été traumatisée l'autre jour quand je suis allée au musée des Confluences et que j'ai vu un Minitel dans une vitrine dans le musée. C'est-à-dire que moi, mes résultats de bac et mon inscription à la fac, je l'ai faite sur Minitel. Voilà.
D'accord.
Je ne sais pas si je.
Moi, je suis étonné par les contradictions quand même qu'on voit. Si on m'avait dit quand j'étais jeune que. À mon âge actuel, on verrait pratiquement tout le monde, du moins dans le monde développé, ne pourrait plus se séparer de leur ordinateur pour gérer leurs affaires quotidiennes. J'aurais dit que c'est impossible. Mais qu'en même temps qu'ils n'acceptent pas de comprendre l'effet des gaz de serre sur le climat, qui n'est pas bon, si dur à comprendre que cela, je ne sais pas, il y a un gros écart entre ce qu'on accepte facilement de la part de la science Et ce qu'on refuse, parce que ça va contre les habitudes qu'on a pris.
Mais c'est parce que personne ne sait comment fonctionne un ordinateur. L'ordinateur, on l'utilise parce que c'est passible. Et que du coup, voilà, c'est, alors que les gaz à effet de serre, il faut faire la démarche intellectuelle pour comprendre comment ça fonctionne. Et effectivement, on arrive à la conclusion, forcément, que ça va chambouler notre quotidien bien confortable de nos ordinateurs et de notre voiture et de notre avion.
Mais tu sais, Florence, tu soulèves un point qui est absolument fondamental. Je vais revenir, je vais faire de l'archéologie. À l'époque où les dinosaures régnaient sur le monde et où j'étais petit, je savais, quand je dis que j'avais 10 ans, je savais à peu près d'où venaient tous les objets qui m'entouraient, les vêtements que je portais, même le frigo dans la cuisine, à la limite, on m'avait expliqué comment ça marchait, je comprenais à peu près, je savais ce que c'était qu'une pompe, j'en avais une sur mon vélo. Je savais que les adeptes autour de moi étaient capables de réparer et de fabriquer pratiquement tout ce qu'on utilise. Alors qu'actuellement, je porte des chaussettes avec des microbilles qui m'empêchent d'avoir de la transpiration. J'ai un téléphone électronique dont je n'ai pas la moindre idée de la façon dont les composants fonctionnent, et sachant que chaque composant vient de pays différents et a été assemblé dans des conditions invraisemblables. J'utilise Internet. J'ai eu un certain nombre d'opérations médicales pour me sauver la vie et ça a marché, qui n'existaient pas au moment où j'ai commencé à étudier la médecine, je fais un peu de médecine. Toutes ces choses-là font que, à un moment donné, le monde a changé vers un niveau de complexité terrifiant. J'ai connu deux étages de complexité depuis que je suis petit, je suis en train d'en connaître un troisième. J'exerce un métier qui n'existe pas quand j'ai terminé mes études à l'université. C'est quelque chose. Je ne peux même pas dire que j'ai pu être formé à ce métier. Il a fallu qu'on l'invente. Et j'ai fait partie des gens qui, à mon niveau, l'ont inventé parce qu'on était en avance. Et donc, l'idée de se dire que le futur est prévisible, même à une échelle de 10 à 15 ans, c'est une idée à laquelle je crois de moins en moins. Je le vois s'agiter rapidement. Je sais que certains produits vont arriver sur notre table, certaines formes de médicaments vont arriver sur notre table, certaines formes de gestion d'information vont être mises en place d'une façon absolument dingue. J'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dû voir l'article, il y a une personne qui ne s'est pas lavé les mains entre deux expériences sur des piles d'un certain type, et qui donc recouvert les fils qu'elle avait mis sur la pile de traces de l'expérience précédente, s'est aperçu qu'en fait, les piles allaient plusieurs centaines, elles permettaient des cycles de stockage 30 fois plus importants que les précédents. Donc elle a découvert, accidentellement, comme ça arrive, des systèmes de chargeurs de piles qui peuvent être rechargés 200 000 fois au lieu de 3 000 fois ou 7 000 fois. Donc, elle a contribué pour moi à changer le monde. Mais les scientifiques nous disent, entre le moment où on l'a découvert et le moment où on comprendra et le moment où vous l'aurez dans votre iPhone, il s'écoulera 2 ans. 2 ans, c'est rien.
Ça veut dire que pour un iPhone, c'est beau.
Oui, pour un iPhone, c'est
beau. Non, mais c'est intéressant aussi de constater.
Oui, mais 2 ans, c'est rien. Ce qui veut dire que l'objet va révolutionner en douceur le truc avant même qu'on ait commencé à réfléchir à d'éventuels garde-fous ou à des changements de pensée et tout ça. De la même façon que quand le téléphone portable est arrivé et est arrivé à toute vitesse, au début, c'était quelques riches qui frimaient en ayant un, 8 mois plus tard, tout le monde en avait un. Et du coup, ce qu'on a complètement oublié d'inventer, c'est la politesse qui est avec. Vous vous rappelez, au début, les portables, on avait ça d'un supportable, et les gens qui parlaient tout seuls dans la rue, on allait les voir en leur disant vous avez un problème. Et en fait, ils étaient en train de parler à leur téléphone. Et maintenant, personne ne fait plus attention. Mais on n'a toujours pas inventé la manière de se comporter en société, les règles sociales et sociétales de comment je communique quand j'ai besoin à table de communiquer. Est-ce que c'est normal pour des enfants d'interrompre le repas familial pour faire un chat avec leur copine? J'en sais rien, je pose la question. Est-ce que quand je suis en réunion de travail, est-ce que c'est normal que mon téléphone sonne et que je fasse un autre truc? Est-ce que c'est normal qu'on vous demande de mettre votre téléphone en silencieux parce qu'il y a une caméra? Est-ce qu'on n'a pas un système à prévoir? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas installer dans une salle de cinéma un système qui empêcherait les téléphones de faire du bruit pour que les gens puissent regarder le film tranquille?
C'est des thématiques qui ont déjà été légèrement été abordées dans Retour vers le futur 2. Comme si c'est dans le futur et qu'il y a des écrans dans la maison et que le boss de Marty, Marty vieux, enfin un peu plus vieux, vient chez lui dans son écran au moment du repas, lui dit qu'il est viré et donc c'est vraiment une intrusion du professionnel dans l'espace privé de la maison qu'on a maintenant tous avec nos smartphones. Alors là, c'était par un écran, mais de télévision, mais et c'est marrant de voir que des Retour vers le futur 2 dans les années 80 l'avait déjà vaguement évoqué, même s'il n'était pas allé aussi loin que ce que tu es allé là. C'est déjà des thématiques de la frontière entre professionnel, personnel, et puis sociétal, oui, comment se comporter les uns avec les autres, comment communiquer entre nous et quelles sont les règles de politesse. C'est vrai que la technologie évolue évidemment beaucoup plus vite que nous, et c'est ce qui fait aussi les petits soucis entre générations, et quand je parle de générations, je ne parle même pas de grands-parents à petits-enfants, enfin, c'est vraiment... Mais déjà, moi, avec mes cousines, on a 10 ans d'écart, et je les regarde comme si elles étaient des extraterrestres, et vice-versa, et c'est très, très amusant, parfois amusant, de s'en rendre compte,
J'ai vu une fille de 14 ans, elle est authentique, hein, à la Rocultura de Madame de Toulouse, où sa mère a essayé de lui faire acheter un Harry Potter, et un Harry Potter, c'est un truc de vieux.
Non, mais elle est ramée parce qu'elle avait 14 ans et que ses grandes cousines les avaient lues à 8 ans.
Et au passage, il y a par exemple un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Robert Sherman Wilson qui s'appelle Les Affinités, qui traite en gros du problème des affinités genre Facebook d'une façon qui est absolument remarquable et qui est parfaitement science-fictionnelle à mon sens. C'est-à-dire qu'au premier tiers du livre, on se dit, ah, c'est absolument génial, j'en veux. Et à partir de là, le mec, ça commence à merder. Et à la fin du bouquin, on se dit, ben non, en réflexion, j'en veux pas. Mais sauf qu'on l'a déjà. Et est-ce que justement, le rôle de la science-fiction n'est peut-être pas de donner des idées scientifiques, mais de rappeler des évidences sociétales humaines sur le fait que les objets scientifiques qui changent notre vie apparaissent à une vitesse absolument terrifiante. Et véritablement, vous n'imaginez pas à quel point dans les années qui viennent, chaque année apportera son lot d'innovations, mais changeant le monde. Ça va aller de la voiture qui se conduit tout seul, là, je ne sais pas, au sextoy qui comprend vos désirs, on n'a plus l'esprit. Ce qui est imaginé, bon, ils ne fonctionneront pas avec Windows, enfin, ça sera quelque chose qui commence à se mettre en place. Je plaisante plus à part sur cet aspect-là, mais vous savez quand même que l'industrie du sextoy américaine est l'industrie qui a employé le plus de nouveaux ingénieurs en 2014. Vous avez des gens, qui ont quitté la NASA pour travailler pour l'industrie du sextoy.
Non, alors je
ne
suis pas d'accord.
Ah, ça, si, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont été virés de la NASA, qui ont été récupérés par. Et c'est vrai. Bon,
En même temps, ils jugeaient.
Oui, c'est vrai qu'ils avaient déjà une expérience de truc qui allait bien. Surtout qu'une fusée, ça vibre. Et ça, par contre, ça avait aucun problème. Alors que justement, c'était peut-être des gens frustrés qui essayaient d'éliminer les vibrations de la fusée. Mais pourquoi ne pas les garder? Et à partir de là, effectivement, ils se retrouvaient dans l'industrie qui arrive. Donc vous voyez, ça, ce genre de choses est en train d'arriver. Et je vous dis sérieusement que la science-fiction joue un rôle pour simplement habituer les gens à la souplesse. Au fait qu'on ne peut pas se contenter d'accepter passivement la découverte scientifique quelle qu'elle soit, mais qu'on a besoin de la, je sais pas, de la maturer, de l'intégrer dans notre esprit, de se dire, bon, ok, comment je me comporte vis-à-vis d'elle.
Mais moi, je pense que c'est très bien pour les 30, 40 et 50 ans à venir, mais qu'après, il y aura juste un palier où on ne pourra plus innover et sortir des nouveaux engins tous les 3 semaines, parce qu'on n'aura plus l'énergie et les matériaux pour le faire. On parle beaucoup de transhumanisme. En termes de science-fiction, c'est formidable le transhumanisme. On va tous devenir des machines ou assimiler, ou en tout cas des parties de nous qui vont. Mais il va falloir les fabriquer, ces éléments. Enfin, il va falloir. Donc,